101.1.
h 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi 25 mai et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Pour animer cette émission avec moi ce soir, Thomas, que l'on retrouvera en deuxième partie d'émission, en compagnie d'Alexandre Marzin et de Nathan et Sarah, dont n'est pas des moutons de la TGB, la télévision générale brestoise. Et comme tous les soirs, découvrez à la fin de l'émission un reportage de la Corlab. Cette semaine, le littoral autrement vous emmène sur la côte du Finistère Nord, précisément à Roscoff. On y découvre l'histoire des Johnny, marchands d'oignons partant vendre leurs produits en Angleterre, et celle de l'oignon de Roscoff, pur produit du terroir Léonard, distingué d'un label AOP en 2013. Le littoral autrement vous propose donc de découvrir ou redécouvrir cet épisode assez méconnu en France, mais qui représente pourtant un grand pan de l'histoire de Roscoff. Selon l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple lors de l'année 2019 par le ministère de l'Intérieur et sa délégation aux victimes, 94% des morts au sein du couple sont des femmes. Parmi les femmes tuées par leurs conjoints, 41% étaient des victimes de violences antérieures de la part de leurs compagnons. Et parmi les 21 femmes ayant tué leur partenaire, 11 d'entre elles avaient déjà été victimes de violences de la part de ce partenaire. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2021 et à l'heure où je vous parle, 43 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier. Le mouvement Nous Toutes s'inscrit notamment dans la lutte contre ces violences conjugales. Et ce soir, nous accueillons les référentes de Nous Toutes 29. Marine et Adeline, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, Nous Toutes 29 s'inscrit plus généralement dans le mouvement Nous Toutes national. Pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu le mouvement, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu plus?
Alors, c'est parti de Paris. Il y a eu une grosse marche, en fait, en 2019, si je ne me trompe pas. Et ensuite, plusieurs comités locaux en province se sont installés petit à petit, dont deux maintenant dans le Finistère, à Brest et Quimper.
Et donc, l'une des actions de ce collectif, c'est l'opération Baguette de Pain, débutée en mars 2021. Donc, c'est des emballages de baguettes sur lesquels sont inscrits un violentomètre et des numéros d'urgence. Le violentomètre, c'est un outil qui n'est pas nouveau, qu'on a pu voir déjà depuis 2019 et qui diffère un petit peu en fonction des utilisations. À quoi ça ressemble et à quoi ça sert?
Alors, c'est comme un système de graduation finalement des violences. On va partir du vert où tout est sain dans la relation, tout va bien. Et on va aller jusqu'au rouge où faut partir de cette relation, il faut chercher de l'aide. Et il y aura vraiment des exemples concrets finalement. Comme le fait la jalousie ou le fait de fouiller dans les SMS, ça va vraiment montrer aussi que les violences, c'est pas que physique, c'est pas que des coups. Ça va être psychologique ou sexuel finalement. Ce qu'on oublie souvent et ce qui fait culpabiliser souvent les victimes, puisqu'elles pensent que ce qu'elles vivent c'est normal et que c'est de leur faute, alors qu'on le rappelle que non.
Et pourquoi est-ce que, selon vous, on a besoin d'un degré de violence? Ça commence, donc on a dû te faire du chantage si tu lui refuses quelque chose, à te menace avec une arme.
Alors en fait, les experts sur les violences conjugales ont remarqué que, en fait, avant d'arriver à un féminicide, il y a toujours une escalade. Ça commence pas une relation parfaite et des coups. Il y a toujours cette escalade dans la très grosse majorité des cas. Et en fait, le violentomètre, ça va permettre de se rendre compte. Ah oui, tiens, là, je suis dans le orange. Je suis pas encore dans le rouge, mais finalement, je suis dans le orange. Et c'est drôle, je suis pas dans le vert. Donc peut-être, en fait, ça permet d'avoir des fois des déclics, de se dire. Ok, je suis pas encore une victime de féminicide, mais il y a un problème. Et souvent, ça peut permettre aux victimes d'avoir un déclic avant un drame.
Et donc, on a une sorte de méconnaissance, peut-être un petit peu de la violence. Selon vous, elle est due à quoi? Pardon, je voulais pas faire une question piège.
Non, je sais pas. Peut-être le fait de vouloir cacher les choses aussi, et puis vraiment la banalisation, la culture du viol en général, des violences de tout. tout est banalisé finalement, donc on fait passer ça pour normal. Je pense que c'est ça le problème.
Donc on l'a dit, c'est une initiative qui est nationale et que vous avez mis au niveau, donc que vous avez mis en place au niveau local à Brest. Comment est-ce que ça s'est organisé?
Alors c'est parti de Noisy-le-Sec. Ça a super bien marché là-bas. Du coup, on a voulu reproduire ça dans toute la France. Donc ça a été fait principalement par le comité national à Paris. Et ensuite, c'est eux qui ont dispatché dans tous les comités locaux. Donc nous, à Brest, on a reçu pour l'instant 2000 sacs qu'on a distribués. Et là, on en a reçu aujourd'hui de nouveau 2000 sacs qu'on va pouvoir continuer à distribuer dans les jours à venir.
Et donc que vous distribuez dans des boulangeries. Comment est-ce que vous les choisissez, ces boulangeries, et comment est-ce qu'elles vous reçoivent?
Alors, au début, on était 4 personnes sur Brest à le faire. On s'était partagé en deux, on avait regardé un peu sur Google Maps pour voir à peu près toutes les boulangeries où on pouvait aller. On a d'abord démarché, soit en appelant par téléphone, soit en y allant directement. Et là, parfois, on a eu des noms aussi, ça arrive. Mais on a eu beaucoup de oui, finalement, donc ça a été assez bien reçu. Et après, on revenait, du coup, avec les sacs à pain, leur en donnait à peu près une centaine à chacune.
Quand vous avez eu des refus, est-ce qu'ils étaient expliqués ou...
Alors, je sais que Marine, elle a eu des... On a déjà assez de sacs. Parfois, après, c'est vrai que les chaînes de boulangerie, c'était plus compliqué. Déjà, c'est vrai qu'on allait moins vers elles, parce que là, il y a des démarches à faire. Faut aller voir les personnes les plus hauts, appeler tout ça. Et sinon, c'était pas vraiment expliqué, ou c'était juste non, on n'en veut pas, enfin voilà.
Et vous deux, personnellement, qu'est-ce qui vous a attiré vers le mouvement?
Moi, personnellement, c'est de me rendre compte qu'il y avait une femme victime de féminicide tous les 3 jours en France, et je trouvais ça vraiment énorme, et je voulais m'engager. Déjà, je voulais commencer par me former moi-même, sachant que nous toutes faisons des formations. Et après ces formations-là, je voulais vraiment m'engager et faire quelque chose de concret.
Moi, du coup, j'ai connu nous toutes sur Paris directement, justement, lors d'une grande marche. Ce qui m'a permis après de les suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est suite à cet appel national, justement. Ça m'a toujours beaucoup touché, les violences conjugales. Enfin, je pense que c'est dur de rester insensible. Et puis, je l'ai aussi vu, et puis je comprenais pas. Je voyais souvent les femmes se cacher, tout ça, avoir honte, finalement. Et je me rendais compte que c'était pas normal, en fait. Et je me dis, aujourd'hui, on a des outils, on peut le donner aux personnes pour que ces personnes-là aident les femmes et arrêtent de faire comme si elles voyaient rien, finalement.
Tu parlais de formation. Quel type de formation on peut faire avec nous toutes?
Alors, il y a les formations sur les violences conjugales, justement, qui va permettre de savoir, par exemple, tel acte, c'est un attouchement, tel acte, c'est un viol. Il y a aussi des formations sur la culture du viol. Parce que comme on le sait en France, le viol est très banalisé, ce qui empêche beaucoup de victimes d'oser parler, malheureusement. Mais on rappelle qu'il faut oser parler. Il y a sur l'historique aussi des violences sexistes et sexuelles. On voit dans le passé que c'était encore plus banalisé qu'aujourd'hui. Adeline, peut-être si tu veux compléter.
Je sais que bientôt il y aura une formation sur le lesbianisme aussi. Après.
De toute façon, tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver directement
sur le site. Oui. On rappelle que c'est gratuit, que tout le monde peut avoir accès, que c'est assez facile en fait. On va sur le site internet, on s'y inscrit, on recevra un mail avec un lien. Ça se passe en général sur Zoom. Et ça peut durer de 1 heure à 2h30 à peu près, le temps d'une soirée.
Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de sessions quasiment chaque semaine.
Je reviens un petit peu juste sur l'emballage des sacs à baguettes. Qu'est-ce qui a fait que ça, nous toutes s'est dit, ok, on va faire des sacs à baguettes. Pourquoi des sacs à baguettes? Pourquoi une boulangerie? Pourquoi spécifiquement ce moyen de communication?
Alors ils se sont dit aussi, déjà ça avait bien marché dans le 93, c'était un succès en général avec les boulangeries, donc pourquoi pas mettre ça ailleurs? Mais surtout, une boulangerie, c'est quelque chose qui va être partout en France, où tout le monde va y aller, n'importe qui. Même les personnes les plus isolées vont avoir accès. Et puis la baguette, c'est quelque chose comme ça, on s'y attend pas à avoir forcément un sac à pain qui va prévenir des violences conjugales. Et c'est important d'atteindre un maximum de personnes sans qu'elles s'y attendent, finalement.
Et aussi, pendant le confinement, c'est un commerce qui est resté ouvert.
Alors, pardon, on a eu un petit souci au niveau du son. Pas de souci. Donc oui, les commerces effectivement sont restés ouverts. Et par rapport au confinement justement, on a des chiffres des violences qui ont été aggravées ou non pendant le confinement?
Alors ça a augmenté de 60% depuis le premier confinement, ce qui est énorme.
Sachant que déjà avant il y en avait déjà beaucoup. Après voilà, toutes les associations au moment des confinements savaient très bien que ça allait exploser, parce que dans les couples où parfois la journée de travail de l'un ou de l'autre permettait de mettre de la distance, là les deux se retrouvaient dans un noyau familial, donc ça a vraiment fait exploser les violences.
Elle n'est pas habillée comme une salope, c'est toi qui penses comme un violeur. C'est un des très nombreux collages qu'on peut voir dans différentes villes. C'est un moyen d'expression de plus en plus utilisé par les mouvements féministes. Qu'est-ce qu'ils signifient, ces collages?
Je pense que grâce aux collages, on peut faire passer des messages facilement à tout le monde. Et surtout arrêter de faire culpabiliser les victimes toujours et vraiment montrer. Enfin, souvent, le plus important, c'est que ce soit vu en fait, par un maximum de personnes avant que ce soit décollé. Et voilà, pour faire passer des messages.
Et c'est aussi une réappropriation de la rue. Voilà, on sait, je pense que la majorité des jeunes filles, on nous dit attention, sors pas trop tard, prends des grandes routes, des routes éclairées. Voilà, c'était aussi une réappropriation de la rue.
Vous êtes en train de créer une antenne locale donc à Brest, si j'ai bien compris. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres associations ou collectifs locaux?
Pas encore, c'est en cours. On va notamment se rapprocher du planning familial, probablement du collectif des droits pour les Brestoises aussi. Mais voilà, comme pour l'instant on est un petit peu au début, on n'a pas encore fait, mais c'est dans nos projets.
Donc au début vous étiez 4, c'est ça? Maintenant vous êtes combien?
Alors maintenant on est à peu près 10.
Oui.
Faut savoir, il y a des personnes qui vont se donner plus, d'autres qui vont être juste bénévoles après, qui vont suivre. Donc on essaie un peu de s'organiser là pour le moment pour savoir qui va avoir quel rôle, tout ça. Et puis nous on est vraiment les deux référents, donc on veut, c'est à nous un peu de décider tout ça, de mettre les choses bien, de tout organiser. Donc on est en train de travailler à tout ça. On va faire des réunions aussi pour tout organiser, même que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les actions, tout ça, voir comment communiquer.
Et voilà, si certaines et certains des personnes qui nous écoutent souhaitent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou Facebook.
C'est ouvert à tout le monde?
Oui. Après, par rapport aux hommes, on n'en a pas encore discuté. Il y a certaines associations qui préfèrent que ce soit réservé aux femmes, si c'est femmes trans, puisque les statistiques le montrent, c'est une très très grosse majorité d'hommes qui sont, comment dire, qui font les violences sur les femmes. Donc voilà, on doit en discuter, mais voilà, sinon on est ouverte.
C'est une question, j'ai l'impression, qui est assez brûlante, la question de la mixité ou de la non-mixité, justement.
Oui, assez.
On sait que dans certains comités locaux ailleurs, ils acceptent totalement tout ça. Puis d'autres, ils ont essayé, ça s'est un peu mal passé parce que finalement, je pense que c'est normal qu'on puisse se prendre mal, que des hommes décident à notre place quelles actions on doit mettre en place, puisqu'ils peuvent pas un peu ressentir ce qu'on vit, nous, au quotidien, depuis l'enfance, finalement. Et donc, on y réfléchit, pourquoi pas un jour en intégrer, il n'y a pas de souci, pour nous aider, plus en bénévole. Mais c'est vrai que je pense que pour décider tout ça, non, ça sera pas forcément possible. Mais après, de toute façon, il faut discuter, je pense, avec toutes les personnes qui sont dans le comité pour savoir qu'est-ce qu'elles préfèrent aussi, si des personnes seraient peut-être pas à l'aise par rapport à un vécu, tout ça.
Peut-être plus en tant qu'allié qu'en tant qu'acteur.
Oui, exactement. Tout à fait.
Vous, personnellement, du coup, depuis que vous êtes encore plus engagée auprès de nous toutes, est-ce que vous avez reçu des commentaires désobligeants ou des difficultés par rapport à vos amis, à votre famille, par rapport à votre engagement?
Moi, je vais surtout parler. On regarde un peu. On a fait du coup la presse écrite où ça a été retransmis sur les réseaux sociaux. Et souvent, on a eu « et les hommes », alors.
Oui.
Et c'est vrai que ça, enfin, moi, perso, je préfère pas répondre directement à ces personnes-là, vu que je suis dans l'article, tout ça, j'ai pas du tout envie, après, de me rendre accessible à ce genre de personnes ou quoi, ou même dire que, ouais, on pense qu'aux femmes, on n'est pas du tout humaniste, tout ça, enfin, on met personne de côté, c'est juste qu'il y a des choses qui font que, oui, nous, c'est les femmes, c'est... On s'intéresse à ça, mais aussi il y a des chiffres qui montrent que c'est surtout les femmes qui subissent tout ça, donc je pense que c'est normal. Et c'est vrai que c'est un petit peu énervant de tout le temps de faire des actions assez concrètes et de voir des gens qui posent des commentaires en mode ben, et les hommes. Du coup, j'ai envie juste de répondre, ben, montez quelque chose vous, si ça vous touche, les violences conjugales contre les hommes. Mais,
Oui.
Voilà.
Je pense que je peux re-rappeler les chiffres que j'avais donnés en début d'émission. C'est qu'effectivement, donc il y a 27 femmes qui ont tué leur partenaire en 2019. Et donc, 21 femmes qui ont tué leur partenaire en 2019. Et donc, il y a 11 d'entre elles qui avaient déjà été victimes de violences de la part de ce partenaire. Et alors, j'ai mal fait mon travail. Je n'ai pas les chiffres de 2019 pour les femmes qui ont été victimes, enfin qui ont été qui sont mortes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, donc je vais éviter de dire des bêtises. Ça, c'est des chiffres qu'on peut retrouver aussi sur le compte de Nous Toutes, si je me souviens bien.
Oui.
Et j'ai vu aussi que vous serez donc le 12 juin à Quimper dans le cadre d'un village associatif pour les droits des LGBTQIA+, organisé par la Ligue des droits de l'homme, SOS Homophobie et l'association Phoenix. Pour vous, c'est important de vous inscrire dans cette lutte ?
Alors ça, du coup, cette opération, ça a été surtout lancé par le comité local de Quimper. Ça n'a pas vraiment été fait par nous à Brest. Après, du coup, par rapport aux luttes LGBT-phobes, en fait, pour nous, c'est un parallèle dans le sens où, voilà, c'est une oppression systémique, en fait. Il y a une oppression systémique sur les femmes et aussi sur les personnes LGBT. Donc, évidemment, ouais, c'est des parallèles. Et ça nous touche également.
C'est J'allais dire oui, c'est forcément des choses qui ont des liens, enfin des oppressions qui ont des choses en commun, en fait.
Oui. Oui, sachant qu'en plus pour les violences sexistes et sexuelles, les personnes LGBT sont encore plus ciblées par les violences sexistes et sexuelles qu'une personne hétérosexuelle.
Est-ce que, au-delà du mouvement Nous Toutes, vous avez des personnalités ou des collectifs que vous suivez et qui vous inspirent ?
Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui explique énormément de choses, vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, je conseille d'aller le voir, même. Vraiment, ça sera des différentes images, des threads, du coup, c'est plus pour Twitter, mais elle le fait sur Instagram, justement, même des stories, c'est hyper intéressant.
Moi, j'aime pas mal le compte Instagram Mécréante. C'est aussi un podcast qui est vraiment hyper sympa, avec des thématiques vraiment simplifiées. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Il est vraiment sympa.
C'est là, vous avez tous les deux parlé d'Instagram. C'est vrai que Nous Toutes est sur Instagram aussi. Les réseaux sociaux, ça prend une place importante dans la lutte contre ces violences sexistes et sexuelles.
Je pense que grâce aux réseaux sociaux, on peut notamment atteindre le gouvernement aussi. C'est assez facile de les notifier. Et puis, notamment, Nous Toutes, il y a une assez grande force sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Ce qui permet même de retweeter, de parler à des personnes qui ne seraient pas forcément visées ou ciblées directement à travers les hashtags. Et puis, moi, Instagram, je le vois un peu comme un mur sur lequel je m'exprimerai aussi. C'est pour ça, là, sur Instagram, nous, on va tenter sur Brest de faire des posts où justement on va faire des phrases comme on mettrait sur un mur, finalement. Puis c'est un élan de partage, finalement, pour tout le monde, pour atteindre vraiment tout le monde, enfin, à travers les stories, à travers tous les posts, à travers n'importe quoi, finalement. C'est le meilleur moyen, ouais, je pense, pour communiquer aujourd'hui. Surtout même à travers les confinements, tout ça, tout le monde était connecté. Je pense que ça a encore levé encore plus les réseaux sociaux jusqu'ici.
Il y a une phrase qu'on entend beaucoup depuis le mouvement MeToo, justement, c'est « la parole des victimes, elle s'est libérée ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression ?
Moi, je dirais qu'on écoute les victimes, finalement, maintenant. Plus que la parole s'est libérée, je pense que c'est juste qu'on n'écoutait pas avant. Beaucoup de femmes ont parlé. Même dans nos vies, c'est possible qu'on en connaît des personnes qui ont dit des choses, mais qu'on a traité de menteuses ou quoi que ce soit, qu'on accuse. Je pense que c'était plus dur. Alors peut-être que oui, ça a aidé à libérer d'autres personnes, d'en voir d'autres parler ou quoi, mais je pense que c'est l'écoute qui a changé aujourd'hui.
Ouais, complètement. Avant, quand une personne osait parler, je pense qu'on remettait beaucoup trop sa parole en question. Et du coup, voilà, après, elle osait pas non plus parler. Enfin, continue de parler. Et je sais pas, par exemple, une copine qui voit une connaissance oser prendre la parole sur ce sujet et voir quel effet ça fait. Après, je pense qu'on a moins envie d'en parler nous-mêmes. Alors que là, avec l'effet MeToo, on voit, ah tiens, elle a osé parler, ça a permis ça, ça, ça et ça. Moi aussi, je vais oser parler. Et je pense que grâce à ça, voilà, les gens se sont vraiment rendus compte que c'était pas une fille par-ci, par-là, que c'était qu'on est quasiment toutes touchées, finalement, par les violences sexistes et sexuelles à différents niveaux. Mais je pense qu'il y en a très peu qui sont épargnés.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à une personne qui, voilà, nous dit qu'elle a été soit victime de violences sexistes ou sexuelles? Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne? Quels sont les premiers mots qu'on devrait dire pour l'aider?
Déjà, lui dire qu'on la croit. Que si elle a besoin de nous en parler, on est là. On peut l'emmener aussi vers des numéros. Comme le 3919, on parle beaucoup de violences conjugales, mais c'est aussi pour toutes les violences, si elles ont besoin d'en parler. Ça peut être emmené vers des sites internet aussi qui existent. Et puis, voilà, vraiment dire à la personne qu'on est là et qu'on peut l'aider, qu'on l'écoute. Mais c'est vraiment important surtout de croire la personne, parce que il n'y a pas vraiment de raison de mentir sur des choses comme ça, en fait. Je trouve ça personnellement un peu stupide de dire à quelqu'un qu'elle ment, parce que ça n'apporte jamais rien de bon de mentir sur des choses comme ça. Ça va, je sais pas qu'est-ce que ça pourra apporter de positif, quoi, d'inventer des choses.
Et souvent, quand une personne va entendre ce « je te crois », dans la globalité, ce sera dans la première fois qu'elle entendra ce mot-là, en fait. Et justement, elle va savoir que sa parole n'est pas remise en question, et elle va sûrement oser s'ouvrir plus.
Il y a une enquête qui a été faite aussi par nous toutes sur les personnes qui ont subi des relations sexuelles non protégées, non consenties. C'est des enquêtes qui sont importantes pour le mouvement.
Oui, toujours les enquêtes, c'est vraiment très important, notamment parce que avant qu'il y ait ces enquêtes, avant qu'il y ait les chiffres, c'était tout le temps remis en question. Que là, souvent, voilà, on a les chiffres, en fait. On peut dire non, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, une fille par-ci par-là, c'est énorme. Après, les chiffres de cette enquête, je les ai plus en tête, mais c'est toujours un peu le même principe, en fait. C'est avoir des chiffres pour que ce soit plus remis en question, en fait.
Et est-ce que vous avez, depuis que voilà, vous êtes lancée dans Nous Toutes, dans le mouvement féministe, est-ce que vous avez une relation différente avec les autres, que ce soit les femmes ou les hommes?
Moi, des fois, au niveau des hommes, je ne laisse plus du tout dire ce que je dois ressentir ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que même, enfin, je me rends encore plus compte, je pense, des choses maintenant, le moindre truc. Rien que tout à l'heure, en venant, on était dans la voiture, on disait souvent les voitures, elles sont plus adaptées pour les hommes ou des choses comme ça. Enfin, on doit se rendre compte de plein de choses maintenant, et on se dit, ah ouais, quand même, quoi, c'est dingue.
Ouais, en fait, il y a une expression souvent, c'est quand on découvre le féminisme, on dit après, on a les lunettes du féminisme et on voit le monde à travers ça. Et c'est vrai qu'on le voit vraiment partout, tout le temps. Dans les conversations avec tout le monde aussi, même des fois des personnes bien intentionnées, on va dire, se rendent pas compte que ce qu'elles disent est problématique. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi on est présente sur Instagram, les réseaux et tout ça pour mettre une petite goutte dans l'océan, on va dire.
Les numéros à contacter ou les sites à contacter en cas d'urgence, on peut les trouver sur le site Nous Toutes?
Oui, ils sont tous référencés.
Et donc, je tiens à rappeler aussi que le refus de plainte est interdit par les forces de l'ordre, et que si une femme veut porter plainte, elle en a le droit et la possibilité, et un homme également, bien sûr. Marine et Adeline, merci d'être venues ce soir.
Et merci à vous.
Merci à vous.
Avec grand plaisir. Donc, toutes les informations de Nous Toutes 29 sont à retrouver sur votre page Facebook et sur le compte Instagram. Donc, C'est vous qui le dites revient avec TGB, la télévision générale brestoise, tout de suite après Sorcière d'Océaline.
Cigana mandou jogar tudo pro alto. Tarot de Marcela, Saturno quer me parar. A lua cheia, brilha lá no alto. Dá novas ideias, novas ideias. Quando a morte quer dizer transformação, as cartas não mentem, mas elas podem se enganar. Ascendente em fogo, signo leão. Temperamento de chefe, pinta de reclama que é pouca atenção que ele dá. Ele está com os amigos, tomando chope espetinho, leva pro jantar uma galinha. E desce e sobe a colina, vai na contramão, desfila de azul e branco. E vive perto do mar, urano de bom humor na favela. O sol brilha lá no alto. Chega aí, chega aí, chega aí. Cuidado, arcanjo sem nome dessa vez tá pendurado. Se atrasar o pagamento, o gato será cortado. Ela tá sem novela, televisão desligado. Cigana mandou jogar tudo pro alto. Tarot de Marcela, Saturno vai me parar. A lua cheia brilha lá no alto. Tá novas ideias, novas ideias. fama que é pouca, a atenção que ele dá, ele diz tá com os amigos. Tomando chope, espetinho, leva pro jantar uma galinha. E desce e sobe a colina, vai na contramão, desfila de azul e branco. E vive perto do mar, urano de bom humor na favela. O sol brilha lá no alto. Chega aí, chega aí, chega aí. Pipoca, cachaça pra erê. Beijo uma pezinha. Pois a saideira, ela reclama que é pouca. A atenção que ele dá, ele diz tá com os amigos. Tomando chope, espetinho, leva pro jantar uma galinha. E desce e sobe a colina, vai na contramão, desfila de azul e branco. E vive perto do mar, urano de bom humor na
Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Et vous venez d'écouter Na Favela de Flavia Coelho. À présent, nous allons parler de être végétarien, végétalien ou vegan quand on est jeune. Le nouvel épisode d'On n'est pas des moutons, une émission proposée par la TGB, la Télévision Générale Brestoise. Alors la TGB, c'est quoi ? C'est une télévision associative d'éducation populaire basée à Brest. Et nous retrouvons ce soir Alexandre Marzin, chargé de coordination projet audiovisuel de la TGB. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Mais nous accueillons aussi Sarah et Nathan. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Vous êtes tous les deux bénévoles à l'association et vous participez à la réalisation des émissions de On n'est pas des moutons. Et vous venez donc ce soir pour nous parler de votre association et de votre dernier numéro, être végétarien, végétalien ou vegan quand on est jeune, qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube TGB TV. Pour commencer, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous parler des activités d'éducation aux médias que propose la TGB ?
Ouais, alors du coup, à la base, TGB, c'est une télévision de proximité, comme il y en a beaucoup dans beaucoup de villes, où c'est un peu comme une radio associative. Et il se trouve que en ce moment on mène beaucoup de projets d'éducation à l'image auprès des jeunes, donc c'est à la fois pour les former aux techniques vidéo, donc comment tenir une caméra, comment faire du montage, et aussi un peu à tout ce qui est journalisme, donc comment traiter un sujet, se renseigner, comment mener une interview. Et puis plus globalement, c'est aussi mettre en valeur des thématiques qui concernent les jeunes et qui soient traitées par eux, quoi. Pour que ce soit pas d'autres personnes qui parlent à leur place. Voilà, et puis ça permet aussi d'avoir le fait de parler devant une caméra, ça permet d'acquérir de la confiance en soi aussi, d'être plus à l'aise pour la suite. Mais après, c'est eux qui vous diront si je mens ou pas.
Voilà. Cette éducation aux médias s'adresse avant tout à des jeunes, mais vous intervenez notamment dans les structures d'accueil, d'animation et d'éducation locale. Mais est-ce que vous êtes aussi amené à travailler avec des adultes dans le cadre de l'éducation aux médias ?
Ouais, alors moi, en ce moment, c'est vrai que notre réseau, il est plus le réseau jeunesse. On bosse beaucoup avec des maisons de quartier, des établissements scolaires, des structures d'insertion, avec la mairie aussi, sur des projets d'éducation autour des médias. L'asso, elle est ouverte à tous les âges, en fait, puisque à la base, ça reste une télévision où chacun peut proposer ses projets de reportage, d'émissions, de documentaires. Et nous, on est là pour accompagner techniquement et puis accompagner aussi sur tout ce qui est écriture, réalisation, tout ça. C'est ouvert. Après, voilà, faut venir voir et puis. Mais c'est après le faire de la vidéo, c'est. On en parlait tout à l'heure, c'est ça demande beaucoup d'investissement et tout aussi, donc le c'est un peu la limite du bénévolat aussi des fois. Donc c'est pour ça aussi que nous on se fixe vachement. Enfin, je dis voilà, pour faire un documentaire quand on est bénévole, ça demande vraiment beaucoup de travail et du temps du coup. Donc c'est pour ça que nous à côté, on essaie de monter des projets qui permettent à des gens de s'inclure plus ponctuellement sur des projets plus larges, quoi. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais.
Quelle est l'importance selon vous de d'éduquer les gens aux médias, et notamment les jeunes comme Sarah et Nathan?
Ben, je pense dans la télé traditionnelle en tout cas, ben on les entend pas parler, quoi. Ou c'est souvent des gens qui parlent à leur place. Alors qu'en fait, enfin, en plus la raison c'est qu'on pense qu'ils ont pas le bagage culturel, ou alors on se fait des idées en fait sur ce qu'ils sont capables de développer comme argument, comme réflexion sur le monde actuel. Alors qu'en fait, quand on les laisse s'exprimer ou qu'on fait un travail de recherche avec eux, on voit très bien qu'ils sont même beaucoup plus en avance que certains adultes sur le regard qu'ils peuvent avoir sur la société, tout ça. Donc je trouve que c'est important qu'il y ait des espaces pour que ce soit eux qui parlent pour eux et pas que ce soit les autres qui le fassent à leur place, quoi. Voilà.
C'est pour ça que je me tourne vers vous, Sarah et Nathan, pour vous poser des petites questions. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à devenir bénévole dans l'association?
Tu veux commencer ou...
Vas-y. Donc, moi, c'est un peu tombé par hasard, parce que là où j'habite, il y avait un projet qui a été fait avec TGB, donc c'est un film. Et on m'a proposé de le présenter pour On n'est pas des moutons. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai commencé à faire d'autres reportages, à adhérer à l'association. Et petit à petit, j'ai découvert que j'adorais ça et que ça m'apprenait plein de choses. Donc j'ai continué.
Et moi, pour ma part, en fait, au début, je voulais faire un stage pour découvrir un peu la télé et tout ce que c'était, en fait. Et en fait, j'ai contacté une entreprise qui m'a redirigé vers TGB et qui m'a dit qu'on pouvait pas me prendre en stage, mais que je pouvais participer bénévolement à des actions comme ça, des petits films et tout. Et en fait, je me suis redirigé du coup pour voir à TGB. Ça m'a plu, quoi. Du coup, je suis resté.
Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler sur ces vidéos?
Moi personnellement, ça m'ouvre énormément à la culture. J'ai découvert, je me suis intéressée à des sujets dont habituellement j'aurais même pas l'idée de que ça pouvait exister. Plein d'événements qu'il y a eu à Brest que j'ai découvert, et puis ça m'a apporté aussi énormément de confiance en moi, me dire que j'étais capable de faire des émissions, de chercher de par moi-même, de m'intéresser à plein de choses.
Et moi, je dirais, c'est plus dans la technique, en fait. Je voulais apprendre comment, par exemple, manier les lumières, la caméra et tout, pour plus tard, quoi. Et ça m'a à peu près appris tout ce que c'était.
Alors, c'est peut-être un peu tôt pour vous poser cette question, mais est-ce que vous avez déjà pensé à faire des études dans le milieu de l'audiovisuel ou en lien avec ça? Je crois que Nathan, toi, tu veux faire un DUT en audiovisuel, c'est ça?
Ouais, je veux plus tard me rediriger vers l'ESRA, qui est une école de formation du coup dans l'audiovisuel, et pour ensuite peut-être en faire mon métier.
Et toi, Sarah?
Des bases, c'était un métier qui m'intéressait pas du tout, mais maintenant avec plus de recul, je me vois vraiment continuer dans cette voie, et pourquoi pas me diriger vers des études de journalisme.
Ok. Et parlons maintenant un peu du contenu de votre nouvel épisode, donc être végétarien, végétalien ou vegan quand on est jeune. Dans cet épisode, vous donnez la parole à des jeunes qui sont végétariens, végétaliens ou vegan, du coup, mais aussi à des associations, Madabrest et Défi Santé Nutrition. Mais ce soir, c'est à mon tour de vous donner la parole, du coup, et je vais vous poser les mêmes questions que vous leur avez posées. Est-ce que vous êtes végétarien, végétalien ou vegan, vous-même?
Alors, pour ma part, non du tout. Désormais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et grâce à l'émission, j'en ai appris énormément.
Et j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande. Mais sinon, non.
Moi aussi, pareil. Enfin, je suis pas végane. Et par contre, je me suis posé quelques questions quand même. Après, j'ai eu plus d'informations sur qu'est-ce que c'était le véganisme.
Et c'est vous qui choisissez les sujets pour les émissions ?
Ouais. En fait, on fait une réunion à plusieurs chaque mois. Et on choisit en fait en comité ce qu'on va. Les prochains sujets, quoi.
Ok. Et ça entre vous ou avec aussi les bénévoles adultes, on va dire, de l'association ?
Avec les bénévoles adultes aussi. Ils nous redirigent et nous on choisit.
Ok. Et vous en parlez autour de vous du d'être végétarien, vegan ?
Je sais qu'autour de moi, il y a plein de personnes qui le sont, donc c'est quelque chose qui me touche directement, entre guillemets. Donc oui, c'est un sujet qui est beaucoup sur la table.
Et est-ce que par exemple, toi, Sarah, t'es au collège, c'est bien ça ?
Non, au lycée.
Et, au lycée ?
Ouais.
Ok, pardon. Et est-ce que tu en parles avec tes amis au lycée ? Je sais pas, toi aussi, par exemple, Nathan ?
Avec mes amis, pas spécialement, mais avec des personnes de ma famille ou de mon entourage qui sont plus grands, j'en ai souvent parlé.
Mais pour moi, non, je pense pas qu'on parle avec mes potes ou ma famille du véganisme.
Ok. Mais toi, Sarah, comment il appréhende ce sujet ?
Ça dépend, il y en a qui sont pas forcément pour. J'ai des membres de ma famille qui n'y voient pas forcément l'intérêt. Et j'en ai d'autres, au contraire, qui sont vachement pour, qui ont adopté ce mode de vie. Donc ils l'appréhendent assez bien. Et puis j'ai la chance d'avoir une famille qui est assez ouverte sur la culture et sur tout ça. Donc c'est vrai que l'accès au véganisme, au végétalisme, il est assez facile.
Dans votre épisode, vous parlez ou vous faites parler les membres de l'association de Mulhouse, de Brest, pardon. Et vous leur faites parler de la cause animale et la cause écologique pour expliquer le l'engouement autour de d'être végétarien, notamment. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette cause animale ou écologique?
Je me sens concernée, surtout quand en tant que jeune, c'est mon avenir, d'un point de vue écologique et d'un point de vue cause animale. Je pense que on ne peut pas ne pas être concerné. C'est quelque chose qui nous touche, et que c'est quelque chose qu'on consomme énormément, qui est partout dans notre quotidien, que ce soit dans les fast-foods, dans les cantines d'école. Donc, oui.
Et je pense qu'on est tous concernés, enfin... Pour moi, pour ma part, je pense que tous les jeunes sont concernés et qu'il faut en prendre conscience. Peut-être pas changer d'alimentation brute, mais qu'il faut déjà en prendre conscience.
On va parler maintenant du côté purement pratique et technique de votre émission. Donc Nathan et Sarah, on peut vous voir dans le dernier épisode, dont on n'est pas des moutons. Comment vous préparez vos interviews ?
Pour ma part, je m'intéresse sur le sujet. J'essaye d'avoir le plus d'informations de mon côté, de voir de qui je vais interviewer. Donc, je prépare mes questions et puis j'ai l'aide d'Alexandre qui m'aide, qui me redirige souvent sur ce qui est mieux, sur ce qui serait plus pertinent. Mais après, je peux apporter moi-même. Ce que je veux, je peux dire ce que je veux dans la limite du raisonnable. Donc, c'est super libre.
J'ai cru comprendre, Alexandre, que c'est vous qui vous occupez plutôt de l'aspect montage des vidéos.
Ouais, parce que c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. Et vu qu'on diffuse sur TBO, il faut qu'on ait quand même un rendu professionnel. Enfin, en plus, il y a une limite de temps, il faut qu'on fasse pile 13 minutes, que ce soit assez rythmé et tout ça. Du coup, ça demande quand même pas mal d'expérience et si on n'a pas l'expérience, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et du temps que les jeunes n'ont pas, vu qu'ils sont en cours la journée, et puis et les vacances, des fois ils font autre chose aussi. Du coup, cet aspect-là, c'est vrai que c'est moi qui le fais, en leur permettant quand même, sur les, quand c'est possible, de venir avec moi. Justement, moi je leur montre comment ça marche, parce que c'est hyper intéressant de voir le montage, parce qu'on comprend tout, comment le propos peut être aussi transformé via le montage, ou comment on peut... Donc ça, c'est pour un aspect négatif, mais aussi comment on peut dynamiser la parole, comment on peut rendre quelque chose d'intéressant via le montage aussi, s'amuser à mettre de la musique, jouer avec les images, tout ça. Donc c'est, voilà. Mais c'est quelque chose d'assez... ça demande de l'expérience et de pratiquer tout le temps, quoi. Donc cet aspect-là, c'est plus compliqué, quoi.
D'ailleurs, vous parlez du temps que les jeunes n'ont pas forcément, vu qu'ils sont en cours. Combien de temps ça vous prend de faire un épisode?
Du coup, c'est sur un mois. On fait les tournages sur un mois, donc il y a 4 reportages à faire. Après, voilà, ça prend du temps de prendre rendez-vous avec les gens. Donc il y a une partie. Moi, j'aide aussi à la prise de rendez-vous et tout ça, mais sinon, c'est les jeunes qui prennent des rendez-vous aussi avec les gens. Faut caler les agendas et tout ça, vu qu'une fois de plus, c'est du bénévolat pour tout le monde. Ça peut être compliqué des fois. Puis après, il y a les tournages. Souvent, un tournage, ça prend 2 heures, on va dire. Et après, le montage. Alors, je pourrais pas te dire un nombre exact d'heures, mais ça prend du temps, ouais. Et puis, il y a du temps de réflexion aussi pour... que le sujet soit bien traité, que chaque reportage soit complémentaire et que les reportages soient divers aussi, quoi. On essaie de varier les intervenants, les intervenantes pour avoir des choses qui se complètent. Et puis des formats, il y a des formats où c'est des petites chroniques, des fois c'est des micro-trottoirs, des fois c'est des portraits, histoire que ce soit dynamique, quoi, et sympa à regarder.
Et qu'est-ce que vous trouvez le plus dur finalement dans la préparation de l'émission ou la conception de l'émission?
Pour ma part, j'ai déjà fait des chroniques et c'est un moment où t'es seul face à la caméra et tu dois expliquer des choses, dire des intros. Et pour moi, c'est le moment le plus dur parce que t'as pas d'interaction avec quelqu'un en face, personne te répond. Du coup, tu dois toute seule déballer ton texte sans personne qui t'aide. Et c'est dur de te retrouver toute seule face à une caméra et de pas bégayer, d'avoir une parole assez fluide. C'est la seule chose dont j'ai du mal, mais après, quand c'est plus l'interview, ça vient naturellement. Le contact avec l'autre se fait naturellement et c'est que du plaisir après.
Et toi, Nathan, tu t'occupes plutôt de la partie technique, si ouais. J'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu trouves aussi le plus difficile?
Le plus difficile, je dirais le plus dur que j'ai eu à faire, c'est par exemple ma première interview, où en fait j'ai dû apprendre du coup à manier une caméra. C'était la première fois de ma vie. Et ce que je trouve le plus difficile, c'est souvent mettre les lumières pour avoir un bon rendu. Ou des fois, comme je m'y connais pas trop, c'est un peu compliqué, mais... Sinon, je pense que c'est tout pour la partie cadrage.
Et pour finir, Alexandre, on parlait tout à l'heure de l'éducation aux médias. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, humainement, de vous impliquer de la manière dont vous le faites?
Moi, je pense qu'il y a une satisfaction de voir que déjà, on arrive à créer un espace de parole pour les jeunes, voilà, qui puissent s'exprimer sur des sujets actuels. Surtout que souvent, ils sont avec Internet et tout, maintenant ils sont vachement ouverts sur plein de sujets, et puis donc voilà, c'est cool qu'ils s'expriment dessus. Et puis moi personnellement, j'apprends plein de trucs aussi, puisque à chaque fois, sur chaque sujet, moi aussi je fais mes recherches de mon côté, on discute ensemble, et puis on rencontre plein de gens qui nous apprennent plein de trucs. Je sais pas, sur les derniers sujets, avant cette émission là c'était sur l'accueil des jeunes migrants sur Brest, et du coup on a, en discutant avec les intervenants, les jeunes, on a appris une fois de plus des jeunes à qui d'habitude on donne pas forcément la parole. Là c'était hyper cool de discuter avec eux, on a appris plein de choses sur quelle était leur vie ici et tout ça, donc je trouve ça hyper hyper cool de repartir avec tout ce bagage là à chaque fois, quoi.
Pour finir, juste, je voudrais vous demander si vous avez une anecdote ou un moment qui vous a particulièrement marqué dans une émission.
Alors là, j'en ai pas qui me viennent en tête directement.
Peut-être un moment qui vous a particulièrement touché ou...
Je pense que moi j'ai un moment, c'est quand on a fait du coup sur l'accueil des jeunes migrants. En fait, il y avait une fille, je sais plus comment elle s'appelle, qu'on avait interviewée à Emmaüs.
Ah oui, Elisabeth.
Ouais, c'était Elisabeth qui était du coup une jeune migrante. Et en fait, avant du coup de préparer son interview, ben on était à 4 personnes à manger avec Emmaüs et ben, je trouvais ça trop bien quoi.
Ouais. Et vous, Alexandre, peut-être ?
Bah pareil, le plus récent, moi j'ai trouvé vraiment faire cette émission sur les jeunes migrants, c'était vraiment cool. De rencontrer à la fois ces jeunes-là et aussi les gens qui travaillaient avec eux et tout, il y avait plein de... Enfin, j'ai appris plein de trucs, du coup, je trouvais ça chouette, quoi. Voilà. Et puis là, la prochaine, ça va être sur... Il reste une émission avant cet été, ça va être sur comment les jeunes ont adapté leurs pratiques sportives en fonction de la situation sanitaire. Du coup, pareil, là, il va y avoir des interviews avec des jeunes sportifs ou pas, et voilà. C'est ça le prochain truc.
Eh bien, merci à vous trois, Alexandre Marzin, Sarah et Nathan.
Merci.
D'être venus nous voir ce soir pour nous parler de votre association, la TGB, Télévision Générale Brestoise, on le rappelle, et de l'épisode « Être végétarien, végétalien ou vegan quand on est jeune », l'épisode de ce mois-ci de votre série « On n'est pas des moutons ». Je rappelle que cet épisode est disponible sur votre chaîne YouTube TGB TV. Et les autres épisodes et séries sont à retrouver également sur votre site internet tgbtv.fr. Bonne fin de journée à vous.
Merci, merci.
Au revoir. À bientôt.
Au revoir.
C'est vous qui le dites, revient dans un instant après une courte pause musicale.
The peak blue sky of pretty white stars. I feel it's a storm running through your veins. You are guided by this burning flame. You're never alone. We've crossed the line, it's already dawn. Story begins. Looks like it's fine. We are falling down. Looks like it's fine. The roots of the tree. Looks like it's fine. We are falling down. When you're playing, vibration of strings reminds me the green lake of spring, a place not his arms. We walked across an empty land. I know the path will lack back of my hand. We have survived.
Vous êtes toujours sur le 101.1 FM. C'était un extrait de Black Lilies Blood Ties à retrouver donc sur YouTube mais aussi sur Radio U. C'est vous qui le dites touche à sa fin, l'occasion pour nous de remercier à nouveau Marine et Adeline du collectif Nous Toutes 29. N'hésitez pas à les suivre sur Facebook. On remercie également Alexandre Marzin, Nathan et Sarah de TGB, direction tgbtv.fr ou leur chaîne YouTube. Retrouvez cette émission en podcast ainsi que toutes les autres émissions de la radio sur notre site internet. Ce soir, Natacha, médiatrice culturelle de la ville de Roscoff, nous offre une visite guidée de la maison des Jaunies pour nous parler de l'histoire de l'oignon de Roscoff et des Jaunies.
Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison des Johnny et de l'Oignon de Roscoff. Alors je suis Natacha, je suis médiatrice culturelle à la ville de Roscoff et je suis en charge de présenter cette histoire passionnante qui est celle de Johnny qui partait vendre des oignons en Grande-Bretagne. L'oignon de Roscoff, peut-être que vous en avez déjà goûté, il est facile à reconnaître parce qu'il y a un petit logo sur chaque oignon ou sur chaque tresse quand vous en achetez. Alors cette histoire de l'oignon de Roscoff, elle débute il y a très longtemps, selon la légende, au XVIIe siècle. Il faut imaginer que frère Cyril revient du Portugal et sème dans son potager à Roscoff une petite graine en fait d'oignon de Roscoff. Et cette petite graine se plaît bien. Avec les années, on va commencer à cultiver cet oignon. Aujourd'hui, les producteurs, quand ils cultivent des oignons de Roscoff, de la graine jusqu'à la mise en conditionnement, eh bien, ça va se faire sur une vingtaine de communes. Ça va de Roscoff à peu près jusqu'à Kerlouan et jusqu'à Saint-Vouguet dans le sud. Voilà. Nous voilà maintenant à l'intérieur de la maison des Johnny, où on va parler de cette histoire de Johnny qui partait en Grande-Bretagne. Cette maison des Johnny, en fait, elle appartenait à une ancienne famille de Johnny, la famille Danielou. Et la municipalité a acheté les murs dans les années 2000 et on a pu faire une rénovation muséographique en 2019. Donc on a tout un scénario et de nouveaux panneaux tout neufs. Alors pour parler de cette histoire des Johnny, il faut remonter à Henri Olivier. Ce Roscovite plantait dans son jardin des choux-fleurs, des artichauts. Un jour, il entend parler d'un concours, le concours du plus beau chou-fleur et du plus bel artichaut à Paris. Quand il revient, il n'a pas gagné le prix. Il est un peu déçu, mais il se dit « Pourquoi ne pas tenter le coup en Grande-Bretagne ?» Finalement, Roscoff, Plymouth, c'est pas si loin que ça par rapport à Paris. On raconte que ce Henri Olivier revient les poches pleines d'argent. On est au 19e siècle. Cette histoire repose sur une légende. On sait aujourd'hui que, à partir de 1815, les Johnny vont commencer à partir en Grande-Bretagne. C'est effectivement lié à la levée du blocus continental. Ces Johnny vont commencer à s'organiser pour partir de l'autre côté et donc ils vont s'organiser pour partir en compagnie. Une compagnie, ce sont des groupes de 10 à 60 personnes à peu près. Ces hommes, en fait, ce sont des journaliers, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans l'année, ils travaillent dans les champs, aux pommes de terre, aux choux-fleurs, etc. Quand les oignons ont été récoltés, il n'y a plus rien à faire jusqu'à la récolte de choux-fleurs qui se passe décembre-janvier. Pendant les 6 mois de vide, les hommes n'ont rien à faire. Et au lieu de mourir de faim, ils se disent « nous aussi, on va partir en Grande-Bretagne pour essayer de gagner de l'argent ». Quand les contrats étaient signés, eh bien, c'était le moment du départ sur le vieux port de Roscoff. Ce jour-là, toutes les charrettes de toutes les fermes avoisinantes arrivaient avec plein d'oignons et c'était le plus grand des bazars sur le vieux port de Roscoff. Alors bien évidemment, le vieux port de Roscoff est tout petit. Donc en fait, on mettait les bateaux les uns à côté des autres. Donc pour charger les bateaux, il fallait enjamber un bateau à l'autre. On chargeait à marée basse et on repartait à marée haute. Aujourd'hui, on met 7 heures en ferry. À l'époque, il faut imaginer qu'il pouvait mettre jusqu'à 15 jours de bateau selon les vents, selon plein de paramètres en fait, et c'était extrêmement difficile la traversée. Il faut imaginer que à cette époque en Grande-Bretagne, on est en pleine révolution industrielle. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans les champs et beaucoup plus de personnes qui travaillent dans les usines. Mais il y avait des jeunes filles, et ces jeunes filles, en fait, elles étaient souvent trop frêles pour travailler dans les usines, et elles avaient des bâtons. Et sur leurs bâtons, en fait, elles avaient mis plein de choses, des torchons, des casseroles, et elles faisaient du porte-à-porte. Et les Johnny vont utiliser cette technique pour eux-mêmes faire de la vente au porte-à-porte avec les bâtons. Sur chaque bâton, ils vont pouvoir mettre jusqu'à 50 kilos à peu près. Donc les Johnny commencent à s'organiser, et en fait, on pourrait se dire qu'ils sont restés au sud de la Grande-Bretagne, mais en fait, pas du tout. Petit à petit, ils vont monter Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Et dans l'idée, à un moment donné, après la Première Guerre mondiale, cette histoire va tellement bien fonctionner qu'on va arrêter de partir en compagnie et on va plutôt partir en compagnie familiale. C'est-à-dire qu'un homme de famille va partir avec son fils, ses cousins, ses frères, etc. Et donc, ça sera plus simple pour s'organiser par rapport à cette vente-là. C'est aussi à ce moment-là qu'on va commencer à utiliser le vélo. En fait, sur un vélo, les Johnny vont pouvoir mettre jusqu'à 150 kg d'oignons, ce qui est incroyable. C'était des vélos anglais, en tout cas britanniques, et donc sur les rayons, ils mettaient soit du filet, soit des plaques de bois pour éviter que les tresses d'oignons, en fait, ne se bloquent à l'intérieur des rayons. Donc imaginez souvent, le Johnny, en fait, il poussait le vélo comme ça à côté de lui, et ça lui faisait aussi une vitrine, si vous voulez, pour vendre au porte-à-porte. Mais ça va lui permettre aussi d'aller beaucoup plus loin dans les campagnes et de fidéliser encore plus de monde. Ce terme de Johnny, en fait, ce sont les Britanniques qui vont le donner. Il faut imaginer que ces jeunes, quand ils arrivent en Grande-Bretagne, ils ne parlent pas la langue, ils ne comprennent pas forcément la monnaie. C'est un peu compliqué pour eux. Et donc, les Britanniques vont les surnommer les John. Mais John, c'est un peu péjoratif. C'est l'autre, c'est l'étranger, c'est celui qui ne nous ressemble pas. Mais comme le Johnny va revenir d'une année sur l'autre, eh bien, ils vont être connus. Et ce terme Johnny va rester et va être plutôt positif. Aujourd'hui, en France, on dit souvent qu'on les a appelés les Johnny parce qu'il y avait beaucoup de Français, notamment de Bretons, qui se nommaient Yann. Jean en français, John en anglais. C'était en fait les petits Jean. Voilà, c'est pour ça que ce terme est resté. En 1930, c'est l'apogée de cette histoire de Johnny. On va recenser plus de 1500 Johnny à partir en Grande-Bretagne. Et ils vont exporter à peu près 10 000 tonnes d'oignons, ce qui est énorme, sachant que l'année dernière, on a commercialisé à peu près 2500 tonnes d'oignons. Voilà, il y a quand même un grand écart. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en fait la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que à ce moment-là, eh bien, le monde change. Les Johnny ont la possibilité aussi de travailler à Roscoff. La dévaluation de la livre sterling et le fait qu'il faille un passeport pour pouvoir aller vendre des oignons en Grande-Bretagne. De ce fait, le nombre de Johnny va considérablement diminuer d'année en année. Et en fait, aujourd'hui, on recense une petite dizaine de jeunes Johnny qui continuent de partir en Grande-Bretagne, mais ils ne partent plus du tout pendant 6 mois. Ils partent comme ça, 2-3 semaines, pour continuer, pour faire perdurer une tradition, si vous voulez, sur ce métier de vendeur d'oignons. Aujourd'hui, la grosse exportation d'oignons en Grande-Bretagne, effectivement, se fait par bateau, notamment grâce à l'histoire de la Brittany Ferry, où dans le premier cargo, effectivement, il y a des oignons de Roscoff qui partent à l'étranger en Grande-Bretagne.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.